Masquer cela à la force est de constater qu'un lycéen, a fortiori un étudiant, coûte encore beaucoup trop cher à sa famille. Si bien que les fils d'ouvriers et de paysans sont proportionnellement trop peu nombreux à faire des études supérieures. Texte de la foire au cancre de 1962, écrit par Jean-Louis Marcel Charles, dit Jean-Charles, né le 2-12-1922, décédé à Cahors le 21-06-2003. Il était humoriste, écrivain et speaker à la radio. Notre devise, tous ensemble pour la réussite, tous concernés par l'avenir de nos enfants, de nos ados.
Chers auditeurs, nous sommes le 3 décembre 2022. Bienvenue sur Radio Valois-Mulcien dans l'émission Pédago Rando, animée par l'association Projet Action 60 en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune. Ces associations sont représentées par nos fidèles chroniqueurs. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Notre thème du jour, les lycées professionnels. Pour cela, nous recevons au studio M. Mohamed Assamti, professeur génie électrique au lycée professionnel Marie Curie de Nogent-sur-Oise, et au téléphone M. Eban Rami du mouvement national des lycéens.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, juste un petit mot pour vous dire que j'entends toujours parler du bac et du bac pro. Pourquoi pro ? On a l'impression que c'est péjoratif. Ne pas oublier que ceux qui ont passé leur bac auront forcément besoin, tôt ou tard, de ceux qui ont passé un bac pro. Qu'on se le dise. Donc, je vais demander à nos deux chroniqueurs de se présenter. Mohamed.
Bonjour. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité pour la deuxième fois dans votre radio. Donc, pour parler du lycée professionnel et en particulier, donc, bien sûr, de la réforme. Et d'autre part, de vous expliquer aussi c'est quoi la différence entre un lycée technique, un lycée d'enseignement général et un lycée professionnel. Donc on parle de bac pro parce que la majorité des élèves qu'on a soit en CAP, soit en baccalauréat professionnel, mais on réduit ça à un bac pro. Mais en fait, c'est un baccalauréat professionnel. Moi, je dis toujours à mes élèves qu'un baccalauréat professionnel au niveau administratif, c'est la même chose qu'un baccalauréat technique ou un baccalauréat d'enseignement général. Donc c'est pour ça que il n'y a pas de différence entre les trois bacs au niveau administratif. Mais la différence, c'est que nos élèves, c'est des professionnels puisqu'ils font une partie de leur formation dans une entreprise.
Eban ?
Pour le coup, je rejoins ce qu'a dit Mohamed et j'ajouterais quand même aussi sur les bacs professionnels, bien souvent, c'est des filières qui sont très très négligées. Que ce soit au sein de l'éducation nationale, dans les collèges, mais aussi par les filières générales. Donc c'est vraiment une filière qui est très déconsidérée et que nous, à MNL, on a à cœur de défendre au jour le jour.
Ah bah, très bien, Sylvie, le thème du jour.
Alors c'est les lycées professionnels. Par contre, j'aurais voulu poser une petite question à Eban. On a parlé un petit peu hier pour justement préparer l'émission. Tu m'as parlé d'Aubessure. Et je trouvais assez intéressant, effectivement, d'en parler à la radio, parce que souvent, on ne connaît pas. Donc, c'est le Bureau d'organisation des syndicats d'élèves européens. Il y a 32 organisations nationales, représentant donc les étudiants, les lycéens, pardon, et 24 pays européens en fait partie. Alors, donc, c'est surtout pour relayer donc, les opinions de tous. Il y a des conférences, des formations, et il y a chaque année une capitale européenne de la jeunesse qui est dédiée pour ces colloques. Et donc, en 2020, c'était Amiens. Voilà, c'était bien, c'était en Picardie. Et donc, là, pour 2022, donc, ça se passe à Tirana, en Albanie. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des explications sur Aubessure, sachant que d'habitude, je suis en lien avec Nathan au niveau du MNL. Et Nathan, accompagné de Charlotte, sont partis donc au Luxembourg aujourd'hui, c'est ça ?
Oui, alors, l'Aubessure, du coup, c'est bien, du coup, c'est l'organisation. L'Organizing Bureau of European Student School Union, donc c'est le bureau organisateur des syndicats lycéens européens. Et c'est une organisation pan-européenne qui a pour objectif, comme vous l'avez très bien dit, de permettre d'organiser des formations sur notamment des sujets qui touchent à l'Union européenne et de mener des actions communes entre les différents syndicats européens. On a eu notamment les marches pour le climat, organisation commune, on a vu une démarche pour le climat et d'autres événements. Et niveau des formations, on a eu par exemple en début de, enfin, fin mois novembre, on a eu à Lisbonne, par exemple, une formation sur le vote des jeunes dans l'Union européenne et comment former les jeunes et faire en sorte qu'ils s'intéressent plus à la politique au niveau de l'Union européenne. Nous, le MNL, donc Mouvement National Lycéen, on est ce week-end présent au COMEM, donc c'est un peu une sorte d'assemblée générale de l'OBESU. Et au COMEM, nous, le MNL, on va présenter notre candidature pour être officiellement membre au sein de l'OBESU et donc pour pouvoir avoir le droit de vote et participer plus activement. Voilà. Et on saura, du coup, à la fin de ce week-end-là, bah, si le MNL est officiellement membre de l'OBESU ou pas.
D'accord. Au niveau de MNL, est-ce que vous travaillez avec d'autres fédérations ou syndicats de lycéens, notamment, est-ce que vous vous regroupez
Alors, aujourd'hui, en France, il y a le syndicalisme lycéen, je pense qu'on le sait tous, c'est un mouvement qui est relativement peu développé. Il y a trois majeures organisations, il y a le MNL, il y a la FIDEL et il y a la Voix lycéenne, c'est les trois plus connus, si je devais faire un peu en gros. On discute avec la FIDEL principalement, mais aussi avec la Voix lycéenne de temps en temps, notamment pour, on signe souvent sans appel à la grève, etc., en commun. Par contre, étant donné que c'est vraiment des très petites organisations, on n'a pas forcément tout le temps l'occasion de faire beaucoup d'actions en commun, mais oui, on signe souvent des appels à la grève en commun, ce genre de choses.
Oui, mais même avec des syndicats enseignants, toi, tu fais partie d'un syndicat aussi, Mohamed. Travaillez comment, donc, avec tous ces jeunes lycéens?
Mais en fait, nous, si vous voulez, au niveau syndical, enfin, ce que je regrette au niveau enseignement, même au niveau, comment dire, l'ensemble de l'enseignement professionnel, technique et général, c'est que le corps enseignant peut syndiquer. Donc, on doit avoir à peu près 6% de syndiqués. Et ce qui fait que, par exemple, quand on appelle à une grève ou quand, malheureusement, on fait même qu'une heure d'information syndicale dans l'établissement, il y a peu de présents à cette heure d'information syndicale. Mais malheureusement, même au niveau de l'appel à la grève, on n'est pas nombreux à faire grève. Donc, voilà. J'aimerais bien aussi que... Parce qu'en fait, au niveau enseignant, on ne peut pas mélanger donc, les syndicats élèves personnellement avec les syndicats enseignants parce qu'il n'y a pas de mélange, malheureusement, pour...
Oui, mais souvent, on voit passer quand même des tracts, notamment de MNL, où il y a quand même les syndicats enseignants qui rejoignent le mouvement, quand même.
Donc, ça peut se faire dans, sens. Ça veut dire qu'eux, ils appellent à... Moi, personnellement, en tant qu'enseignant, jamais je peux parler avec mes élèves ou avec élèves de mon lycée d'une grève. Par contre, eux, ils peuvent le faire en rejoignant les appels à la grève des enseignants.
Des enseignants.
Mais d'où vient le fait que les enseignants ne se syndiquent plus?
Par exemple, un exemple très simple. Moi, quand j'ai commencé à enseigner il y a 35 ans, je me rappelle, j'ai commencé à Paris. En fait, il y avait une culture, je dirais presque politique, une culture syndicale. Mais à l'époque, quand j'étais stagiaire, je me rappelle, c'est les anciens qui me prenaient par la main et ils me disaient, Mohamed, on va aller voir au rectorat parce qu'aujourd'hui, donc, on demande l'ouverture ou contre la fermeture d'une classe. On allait manifester. Mais actuellement, cette culture politique ou cette culture syndicale, ça n'existe pas. C'est chez certains enseignants. On a tellement développé, l'individualisme chez les professeurs. Un jeune professeur qui arrive actuellement dans un lycée, un stagiaire ou même un nouveau professeur, sa difficulté, c'est déjà de s'insérer dans l'équipe. Et la deuxième difficulté, comme nos salaires sont très, très bas, il court derrière les heures supplémentaires. Il ne peut pas, d'une part, penser à aller faire grève et perdre une journée de salaire. Parce que faire une grève actuellement, c'est un trentième de salaire par mois.
C'est pas possible.
Voilà. Et c'est pas possible.
Mais c'est le reflet de la société en général aussi, la perte des syndicats. C'est pas que de l'enseignant.
Oui, en Allemagne, les syndicats sont très forts. Et en France, c'est vrai que les syndicats ont...
Oui, mais en Allemagne, il y a des syndicats par branche.
Par branche.
Nous, on a des syndicats nationaux qui...
C'est
pas la même chose.
C'est pas la même chose, tout à fait.
Exactement. Mais ce qu'il y a, c'est été développé, mais des fois, c'est malheureusement... Moi, les syndicats que je connaissais donc, dans les années 80, ils sont actuellement scindés en 3, 4, voire 5 syndicats. Donc tellement ils sont... Quand, plus vous êtes petit, plus vous divisez. Donc plus vous divisez, vous ne pouvez pas attirer de jeunes enseignants. Donc c'est la difficulté, quoi.
Bon, allez, on y va. Mais c'était un point intéressant. Alors, les lycées professionnels sont souvent considérés comme une voie de garage, hein, et méconnaissent un petit regain d'intérêt auprès des jeunes. La voie professionnelle permet d'acquérir donc des connaissances et des compétences théoriques et pratiques dans un domaine professionnel. Après la troisième, les élèves peuvent préparer un CAP, un baccalauréat, BTS ou licence professionnelle. Un petit rappel, hein, le CAP conduit principalement à la vie active en 2 ans, le baccalauréat professionnel en 3 ans permet l'insertion dans la vie active ou la poursuite d'études en section de technicien supérieur. Une période de 12 à 16 semaines en entreprise est obligatoire pour renforcer la professionnalisation de la formation. On parlera beaucoup plus tard des stages, hein, des périodes qui vont changer. Alors, les lycées professionnels ont connu ces dernières années des réformes successives. Est-ce qu'une énième réforme va permettre à ces lycées d'améliorer leur image, parfois faussée ou par les jeunes ou par les parents? Et quel bilan peut-on faire des précédentes réformes? Alors là-dessus, Mohamed, voilà. Je te laisse la parole.
Merci. En fait, nous, comme je disais tout à l'heure, il y a une overdose de réformes depuis quelques années. En 2009, par exemple, on est passé d'un bac pro de 4 ans à un bac pro en 2 ans. Avant, on avait un CAP, un élève qui rentrait au lycée d'enseignement professionnel, il fait un BEP en 2 ans, ensuite un bac en 2 ans. Au total, ça ferait 4 ans. Actuellement, on est passé à une autre réforme. Enfin, en 2019, on est passé à une réforme où on est passé, par exemple, de 3 ans. On a supprimé le BEP et on est passé à un bac directement à partir de la seconde, de la troisième, un bac en 3 ans. Mais ce bac en 3 ans, tout en diminuant le nombre d'heures d'enseignement professionnel. Ensuite, là, ce qui s'est passé dernièrement, ça veut dire qu'à partir de 2019, on l'a réduit encore à 2 ans, puisque la seconde professionnelle, elle n'est plus une seconde de spécialisation. On est passé à une seconde d'orientation qu'on appelle la seconde famille de métier. Ça veut dire qu'on regroupe toutes les spécialités qui sont en faible effectif pour réduire l'enseignement professionnel à ces classes-là. Donc, on est passé d'un bac pro en 3 ans à un bac pro en 2 ans.
Oui, ce qui ne se fait pas avec le bac général. Le bac général est toujours resté sur 3 ans
Sur 3 ans, avec une seconde.
Avec une seconde.
Une seconde d'orientation aussi.
Mais est-ce que ce n'est pas un bac pro à grande vitesse, en fin de compte?
Exactement. Il faut se dépêcher. Hein.
Exactement. Donc, en fait, c'est exactement ça. Parce que, par exemple, moi qui travaille dans un lycée public, je fais souvent des interventions en CFA pour les corrections. Donc, eux, directement, ils ont un bac en apprentissage en 12 ans. Mais ce qu'ils font, à la différence de nous, ils viennent chercher dans nos établissements les meilleurs élèves qu'on a pour les former en alternance et en apprentissage en 2 ans. Donc voilà. Mais si vous voulez, et par exemple, là, on parle de réforme, ils pensent qu'actuellement, comme on est au niveau de crise économique, il y a certaines, par exemple, comme mon métier, hein, d'électricien qui est trop demandé, on pense que l'objectif de l'enseignement professionnel, c'est emploi immédiat. Alors que nos élèves, soit du CAP ou du bac pro, ils sont à peu près, donc grosso modo, 50% qui sont employables. Mmh. Et le reste, soit ils décrochent, soit ils continuent donc, l'enseignement supérieur.
D'accord.
Mais est-ce que ça vient pas du fait que certaines entreprises disent que les jeunes qui arrivent ne sont pas formés aux nouvelles techniques?
Là, ça, on le verra après.
Non, mais c'est juste.
Non, mais vas-y, réponds.
Je sais qu'on le verra après, mais c'est juste par rapport à ce qu'on vient de dire, qu'on ralentit de 3 ans à 2 ans. Si on va à 1 an, bientôt, on arrivera que.
En 6 mois.
Non, ben, bien sûr.
En fait. Moi, je dirais, donc, c'est pas qu'on est contre l'entreprise. Au contraire, moi, par exemple, dans mon métier, il n'y a pas, je dirais, sans parce que j'ai travaillé dans 2 lycées dans l'Oise, et une quinzaine d'années par lycée, il n'y a pas une entreprise où je ne suis pas rentré. Donc, ça veut dire qu'il y a... C'est pas un problème. En fait, ça, si vous voulez, pour faire une réforme, on dit toujours, tiens, ils ne sont pas bien formés. Ils ne correspondent pas à l'emploi local. Et ça, c'est faux. Parce que, l'emploi local, la crise économique, ça ne vient pas du crise... C'est-à-dire que si on a un bon développement économique, nos élèves ils seront rapidement employés. Mais comme on est dans certaines zones, en zone de désert économique et industriel, certaines entreprises ne trouvent pas des jeunes qui correspondent à des...
Aux emplois recherchés.
Aux emplois recherchés. Même les élèves, certains élèves qui vont en stage, des fois, ils reviennent chez nous démotivés de leur stage. Ils ne veulent pas faire des emplois. Par exemple, vous prenez après le Covid, regardez les métiers qui étaient de service, hôtellerie, donc restauration, ben personne ne veut faire pas ça parce que les salaires sont trop bas.
Sont trop bas, bien sûr.
Donc il y a toujours ce combat entre le monde économique et le lycée public. Mais c'est la même chose pour le CFA. Les CFA, ils ne répondent pas à l'emploi local. Les CFA, c'est le centre de formation d'apprentis.
Oui, mais est-ce que justement, on va peut-être en parler tout à l'heure aussi, mais est-ce que justement, est-ce que on ne va pas arriver bientôt sur une privatisation de ces formations-là?
Oui, ça, non, on en parlera plus tard.
Ça, stop. C'est autre chose.
On continue. Dans la réforme mise en place par M. Blanquer, on a parlé d'innovation pédagogique, comme les nouveaux programmes d'enseignement généraux avec l'usage renforcé du numérique, l'accompagnement avec des modules de poursuite d'études et d'insertion en terminale, les familles des métiers en seconde aussi. Comment les professeurs ont-ils préparé face à ces changements et comment les lycéens ont-ils accueilli les familles de métiers? Là, je vais peut-être me tourner, je te laisserai la parole après, Mohamed, mais Eban, est-ce que tu peux nous dire, nous, au niveau des lycéens, comment vous avez accueilli ces fameuses familles de métiers en seconde?
Alors, pour le coup, les familles de métiers, c'est quand même considéré par beaucoup comme une plutôt mauvaise idée. En fait, il y a beaucoup d'élèves et de classes qui sont rassemblés alors qu'en fait ils n'ont pas forcément grand chose à voir entre elles. Par exemple, il y a je sais qu'il y a les classes d'électricité qui sont avec les MPNE. Ça a pour objectif de rassembler parce que il y a aussi une volonté de pas vraiment offrir un grand large choix d'options et de rassembler tout le monde au maximum pour faire pour économiser le plus possible en fait, encore une fois, et comme c'est toujours le cas en fait dans ces réformes là. Et ça pose vraiment un problème sur ces familles de métiers-là de rassembler à tout prix certaines classes qui parfois n'ont pas forcément grand-chose à voir entre elles, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, pas forcément les mêmes besoins de compétences, etc. Et du coup, c'est pas mal décrié par beaucoup de lycéens professionnels sur ce point de vue-là.
On peut citer une famille de métiers, admettons, qui n'ont rien à voir ensemble pour les auditeurs, parce qu'ils ne connaissent peut-être pas non plus ces familles de métiers. T'en as une qui vient à l'esprit?
Je sais qu'il y avait la famille SNMELEC, du coup, qui était la famille électricité, qui est rassemblée avec la MTME, donc Transition Numérique Énergétique, par exemple, typiquement, entre une classe d'électricité et une phase de transition numérique et énergétique. Il peut y avoir des points communs, je ne dis pas, mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y en a assez pour vraiment rassembler ces classes-là, alors qu'on pourrait permettre de faire des plus petites classes en ayant des professeurs plus spécialisés dans ces trucs-là, qui pourraient mieux accompagner les élèves plus individuellement. On va toujours tenter de les rapprocher pour baisser les coûts un maximum aux dépens des élèves.
Tu as quelque chose à rajouter, toi qui es professeur justement de génie électrique?
Je suis plein dedans. Par exemple, vous prenez la famille des métiers, on l'appelle TNE. TNE, ça veut dire transition numérique et énergétique. Donc dedans, on met quatre familles de métiers. La première, c'est l'électrotechnique. La deuxième, en gros, c'est électronique informatique. La troisième, c'est clim-froid. Et une quatrième, on appelle ça le développement durable. Donc, c'est quatre métiers. Mais malheureusement, dans mon cas, moi, c'est mon cas parce que je le vis tous les jours. Un exemple, l'année dernière, j'ai dit aux élèves que vous pouvez faire ces quatre métiers. Les quatre métiers, vous pouvez vous orienter vers ces quatre métiers. Malheureusement, dans mon établissement, on n'a que l'électrotechnique. Certains élèves ont essayé de rentrer dans d'autres établissements avec, bien sûr, certains voulaient faire d'électronique et de l'informatique, d'autres clim-froid, mais malheureusement, ils n'ont pas été accueillis parce qu'il n'y a pas de place réservée. On leur promet qu'il y a une orientation, mais en réalité, il n'y a pas d'orientation, puisque la majorité, quand ils n'ont pas trouvé de place ailleurs, ils sont restés chez nous, donc ils sont tous en électrotechnique.
D'accord.
Donc il n'y a pas d'orientation. Donc ça veut dire que c'est...
On réduit encore les choix d'orientation, donc, si je comprends bien.
Et exactement, parce que pour faire toutes ces orientations-là, il faut que toutes les spécialités, les quatre spécialités soient au lycée. Donc moi, à mon avis, donc, on a rassemblé ces formations, c'est pour réduire les nombres d'heures élèves et réduire le nombre de postes professeurs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'on supprime, par exemple, actuellement, je parle de l'Oise, on a supprimé plusieurs classes d'électrotechnique, plusieurs classes de maintenance industrielle, de chaudronnerie et de dessinateur industriel. Et actuellement, sur le marché, ces trois métiers et quatre métiers sont demandés. Vous allez, par exemple, sur chaudronnerie, on nous demande... Nous, on l'avait au lycée Marie Curie, on l'a supprimé. On avait aussi dessinateur industriel, on l'a supprimé. On a supprimé électrotechnique, je donne les établissements. Mes rues, à mes rues, donc à Beauvais, ainsi de suite, on a supprimé aussi...
Donc, si un élève veut faire chaudronnerie, il doit aller où? Dans quel établissement? Il est obligé de quitter l'Oise
dans
ou...
privé.
Exactement.
Dans privé.
Exactement. Ça veut dire D'accord. que toutes les, certains CFA, comme ils ont vu,
se spécialisent.
Se spécialisent par rapport au marché, parce que maintenant l'éducation,
c'est, comme ça que ça marche.
C'est devenu un marché. Donc se spécialisent dans ces métiers-là. Mais comme actuellement, je ne sais pas si vous avez vu, les régions donnent beaucoup d'argent au CFA, et l'État aussi paye presque les patrons pour prendre un stage, un élève en apprentissage. Donc on est passé de 400 000 apprentis, 1 million d'apprentis. Mais la difficulté des apprentis, c'est ça, c'est très simple. Moi, j'en connais plein. Ils font un apprentissage, mais malheureusement, les entreprises, ils leur font un apprentissage, ils récupèrent les subventions de l'État, ils jettent le gamin. Ils ne le regardent pas. C'est ça, la difficulté.
Ça, on en parlera aussi un peu plus tard.
Il y a peut-être un problème de moyens aussi pour les élèves d'aller sur une école à l'extérieur, sur des kilomètres, et d'avoir... point de vue pécunier, les moyens.
Justement, donc, comment on continue à parler ça? Donc, justement, c'est vrai, dans la réforme, le gouvernement prévoit de payer
plus cher
les élèves en stage. Ça, c'est une bonne idée.
C'est une bonne idée, oui.
Ça c'était, par exemple, je parle du gouvernement Jospin à l'époque. Il y avait un ministre de l'enseignement professionnel qui prévoyait de payer les élèves pendant les stages. Il y avait aussi, c'est le premier qui a parlé de ça, c'est Bernard Tapie, paix à son âme. Donc Bernard Tapie, à l'époque, il disait, quand on veut intégrer un jeune dans une entreprise, s'il fait un stage de 6 mois, il faut le payer.
Oui,
il ne faut pas que ce soit, un ouvrier à la merci des patrons. Vous voyez, donc payer un stagiaire... Parce que plus tard, peut-être... Mais par contre, derrière, il faut que l'entreprise le garde. Parce que pas le jeter. Parce que c'est ça, la difficulté. Les entreprises récupèrent les subventions
jeunes,
de l'État et forment le jeune soit en apprentissage, soit en stage. Mais derrière, ils ne le gardent pas.
On a parlé...
Information quand même. Vas-y. Au niveau des bacs pro, quand on est stagiaire, le salaire, il est quand même vraiment dérisoire. Hein. Et si je me souviens
400,
bien,
450. Combien
ouais,
que tu dis
3,90€, je crois.
Ouais, c'est de faire du 457 par mois, j'avais regardé, ouais. Effectivement.
En fait, c'est vraiment ridicule comme salaire comparé au reste du monde professionnel.
Alors, on a parlé donc aussi de mixité de parcours et de développement de l'apprentissage, de la co-intervention en classe de terminale. Comment on organise et c'est quoi exactement la co-intervention? Tout ça, c'était Blanquer, Monsieur Blanquer, pardon, qui l'avait mis en place.
Moi, je ferai un parallèle entre quand on veut en tirer une réforme, par exemple, prenez derrière les gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un grand débat public. Mais qu'est-ce qui ressort? Rien. Donc ensuite, quand on veut enterrer, par exemple, une réforme aussi, le gouvernement crée une commission. Moi, je me rappelle, je suis un ancien, donc j'ai travaillé plusieurs années à Paris. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, on avait deux matières qui ressemblent exactement à ce qu'on appelle co-intervention et chef-d'œuvre. C'est exactement pareil.
Ah ben, chef-d'œuvre aussi, vous l'ont remis là.
Voilà, ils l'ont remis. Avant, la co-intervention s'appelait module. C'est-à-dire qu'on avait deux professeurs de deux, au minimum, de deux matières différentes. Ils interviennent dans un groupe pour faire, comment dire, faire évoluer les élèves sur des connaissances. Ensuite, on avait ce qu'on appelle le PPCP. Le PPCP, c'était projet pluridisciplinaire à caractère professionnel. Donc, c'est exactement le chef-d'œuvre. Mais on fait toujours ça, c'est pour réduire l'enseignement professionnel. Il ne faut pas croire que d'ici quelques années, ils vont encore supprimer la co-intervention et le chef-d'œuvre. La co-intervention, c'est très simple. C'est que vous avez deux professeurs, un de l'enseignement professionnel et un de l'enseignement général. Ils interviennent devant les élèves pour les avancer. Donc, par exemple, moi, j'ai en face de moi toujours, moi, je suis en électrotechnique, j'ai toujours en face de moi un prof de maths et un prof de français. Il me dit, Mohamed, qu'est-ce que vous faites en maths? Je lui donne quelques formules. Il travaille avec les élèves. Et le prof de français, il me dit, qu'est-ce qu'on fait en français pour reprendre à travailler avec les élèves? C'est une bonne idée. Mais le problème, c'est que c'est repris sur des enseignements professionnels. C'est-à-dire qu'on a réduit
le professionnel, d'accord.
Donc, par exemple, je prends rapidement, parce qu'il ne faut pas que je parle beaucoup.
Parce que je vais tirer les yeux.
Donc, pour moi qui est ancien, en général, sur les BEP et les bacs, j'avais en moyenne 16 heures d'enseignement professionnel, de vis-à-vis professionnel. Mmh. Et là, actuellement, j'ai 10 heures d'enseignement professionnel. C'est-à-dire qu'en espace de 20 à 25 ans, on a perdu 6 heures d'enseignement professionnel. Mmh. Et c'est pour ça que les patrons, ils viennent nous voir, ils disent, voilà, les élèves sont mal formés. Si on n'a pas assez d'heures d'enseignement professionnel, c'est normal. En plus, les élèves qu'on récupère, ils sont des difficultés sociales, des difficultés économiques, des difficultés scolaires, et ainsi de suite.
Oui. Le chef-d'œuvre, c'est une nouveauté donc, de M. Blanquer dans le parcours. Qu'est-ce que c'est exactement le chef-d'œuvre? Parce que je suppose que dans certaines familles de métiers, on ne peut pas faire de chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, c'est peut-être facile pour les boulangers ou tout ce qui est dans le bois, etc. Mais c'est peut-être pas utile pour tous les élèves.
Et exactement. Par exemple, nous, on est industriels. Chef-d'œuvre, les projets, on fait tout le temps. On a toujours un projet avec les élèves, voire deux, trois projets pour qui deviennent après des TP. Par contre, par exemple, nous, ces projets professionnels, en partenariat avec, bien sûr, tout l'enseignement général. Par contre, dans certaines spécialités, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Quand vous êtes, dans les métiers de service, j'ai vu, par exemple, certaines jeunes du lycée, justement, Malraux, sont adressés à une association qui fait de l'humanitaire. Mmh. Ils vont les aider. L'association va aider ces jeunes-là dans les métiers de service à faire un projet humanitaire. Et ça deviendra un chef-d'œuvre.
Mmh. D'accord. Voilà. Mmh. Ça peut être intéressant, ça peut être un peu motiver les élèves, peut-être,
jeunes,
un petit peu.
Oui, ça peut être intéressant.
Par contre, on avait... Oui, vas-y, Eban.
Bonsoir, le chef-d'œuvre dans beaucoup de lycées pro, et c'est ce qui est beaucoup remonté des différents élèves avec qui on a pu parler en lycée pro. Donc, souvent, c'est des projets qui sont imposés par les professeurs. Il n'y a pas vraiment une possibilité pour les élèves en pro de choisir un projet qui leur plaît vraiment, qui les motive, etc. Et du coup, bien souvent, c'est des projets qui ne sont pas très intéressants pour eux et pour lesquels souvent ils manquent de temps aussi, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de temps en entreprise dans les bacs pro. Et en plus, Macron veut augmenter encore ce temps-là en entreprise. Et bien souvent, en fait, c'est des projets imposés avec peu de temps et c'est souvent décevant en fait pour les élèves en bac pro.
Ben on va poser la question à Mohamed.
Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi, il n'y a aucun problème. Donc il n'y a aucun problème, c'est que quand par exemple, admettons, on se réunit entre collègues de matières différentes, quand on veut choisir un projet, si on le fait avec les élèves, ça part dans toutes les sens et en fin de compte, c'est le projet le prof qui oriente un peu les élèves pour choisir le projet.
Pour choisir le projet, oui.
Mais en fait, il manque une chose aussi, c'est qu'on n'est pas formé. Vous savez, la formation continue des enseignants, c'est le parent pauvre de l'éducation nationale.
Tout le monde nous le dit.
Ça fait franchement, je suis, depuis une quinzaine d'années, je n'ai même pas été formé, ni il n'y a aucune formation continue à faire, quoi. Donc, c'est terrible.
Alors, il y a Monsieur Macron, n'est-ce pas, on en a parlé largement, ça a été largement repris par les médias en septembre, s'est rendu au lycée professionnel Éric Taberly au Sable d'Olonne. Bon, en bref, ce qu'il en ressort, les lycées professionnels devront davantage ouvrir leurs portes aux entreprises locales ou de la région afin de permettre aux lycéens d'avoir une vision plus détaillée des métiers d'avenir. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un tel dispositif? Est-ce que l'apprentissage des jeunes va être restreint au local ou à la région? Parce que ça ne va plus être vraiment un diplôme de national. Non. Voilà, c'est ça le problème qui se pose.
Justement, donc...
On laisse répondre Eban, et puis après, Mohamed. Vas-y, Eban, parce que je pense que tu as des choses à dire aussi.
Oui. Excuse-moi. Sur cette idée-là qu'avait proposé, là encore, ça pose un vrai problème au niveau des inégalités territoriales qu'on a en France. Donc c'est bien que...
Allô Eban? Bon, on va laisser la parole à Mohamed pendant ce temps-là. On va essayer de récupérer Eban. Vas-y, Mohamed.
Non, en fait, on se rend compte que l'ULP, le lycée professionnel, existe quand on est en crise économique et crise de main-d'œuvre, bon marché. Actuellement, la demande économique est en hausse, alors que la voie professionnelle souffre d'un déficit d'image. Et la majorité des orientations qui sont faites au lycée professionnel, c'est fait par défaut. Les élèves, parce qu'ils ne trouvent pas d'orientation, ils viennent dans certaines formations parce qu'ils sont à côté de chez eux. Donc c'est la difficulté de parler de l'enseignement professionnel. Mais par contre, moi, je reviens juste sur un point. L'apprentissage, personnellement, je ne suis pas contre l'apprentissage. Mais par contre, il faut le faire dans un grand service public de la formation professionnelle. Et dans la formation professionnelle, vous savez, je ne sais pas, vous avez le CAP, le bac pro, à un moment donné, on avait le BP, le BTS et licence pro. Est-ce que vous savez que ces quatre formations ne travaillent pas ensemble? Je prends un lycée polyvalent comme le lycée Marie Curie. Moi, je suis pour la séparation de tout ce qui est professionnel. Un exemple, au LP, on met le bac pro et que le bac pro. Par contre, de l'autre côté, vous mettez le BTS et les licences pro. Et attaché au lycée technique et au lycée général. Donc il y a une évaporation au niveau des budgets. Il n'y a pas de vue globale sur l'ensemble des formations. Au niveau apprentissage, si on commence à faire ce qu'on appelle une mixité d'apprentissage, moi j'ai une classe où il y a des apprentis, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas contre, à une seule condition, c'est que les apprentis, on les mettra de côté. Parce que quand vous mettez les élèves apprentis avec les élèves qui ne sont pas apprentis, donc il n'y a pas de ce qu'on appelle de cohésion du collectif. Ça n'existe pas un collectif. Au niveau pédagogique, ce n'est pas la même pédagogie qu'on va utiliser pour les élèves qui sont en grande difficulté sociale, économique et scolaire, avec quelqu'un qui a déjà un pied dans l'entreprise et il a il est tenu à des obligations salariales puisque c'est un salarié et un élève qui fait une formation initiale. Donc moi je ne suis pas contre, mais la seule condition c'est qu'on sépare les deux.
On a été coupé, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, alors du coup je n'ai pas entendu le début de l'intervention de Mohamed, mais du coup oui, ce que je disais c'est que par rapport au projet d'Emmanuel Macron d'imposer de travailler avec les organisations des entreprises locales, là encore, en fait, on voit bien que c'est tout un projet qui vise à renforcer les inégalités territoriales au sein de la France. On sait bien que, par exemple, un jeune qui veut faire un bac pro dans tel sujet, dans le 93, ou en plein milieu de la Diagonale du Vide, ou dans plein milieu de Paris, il n'aura absolument pas les mêmes chances de réussite, mais aussi les mêmes possibilités de trouver un emploi dans un sujet qui l'intéresse. Donc là encore, on voit bien que toutes les inégalités qui sont déjà présentes, elles sont encore renforcées par ce genre de projet-là. Et sur l'alternance, etc., c'est assez problématique. Enfin, l'alternance en soi n'est pas problématique. Le problème, c'est de proposer et l'alternance et les stages en même temps dans une seule et même formation. Et ça a tendance à séparer les gens au sein de ces formations, à créer des disparités entre ces formations-là. Et ça a pour conséquence, encore une fois, de rendre un peu plus chaotique un système qui plaît déjà. Et de contribuer, encore une fois, à la casse en fait, de la filière professionnelle.
Bon, c'est vrai qu'on a vu qu'il y a eu un mécontentement général. Hein. Il y a une grève qui a été donc déclenchée, surtout à propos de 50% de stages supplémentaires que l'État veut mettre en place, avec donc sans doute des enseignements généraux revus à la baisse, parce que les journées ne sont pas à rallonge. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Cour des comptes a rendu public le 12 mars 2020 la note suivante. Le public qui est scolarisé est resté en difficulté scolaire, voire en très grande difficulté. Et il est davantage issu de milieux défavorisés, voire très défavorisés. On a l'impression que ces lycées sont d'ores et déjà en tourment face aux jeunes qui suivent un cursus professionnel. Alors, ces baisses sont à imputer au confinement. Hein. Bon, c'est parce qu'il y avait eu moins d'enseignement de la pratique. C'est pour ça qu'on avait eu des bacs un peu en baisse. Quand vous entendez cela, on va en parler un peu plus tard aussi, on va supprimer des lycées, on va fermer des lycées ou transférer des lycées parisiens qui sont dans les quartiers, alors qu'on sait que ce sont beaucoup des jeunes qui vont dans ces lycées professionnels. Quand vous entendez ça et que vous voyez un petit peu comment va être le lycée professionnel de demain, comment vous réagissez en fin de compte ?
En fait, là, par exemple, moi, je parle de l'électrotechnique. Je vais revenir seulement sur un point, c'est l'orientation. L'orientation, c'est un échec. C'est le parent pauvre aussi de l'éducation nationale. Je prends un exemple très simple. Vous savez, cette année, sur mes bacs pro, on a eu en électrotechnique 100% de réussite. 100% de réussite. Au retour de vacances, j'ai vu revenir 6 élèves qui ont un bac. Ils n'ont pas trouvé ni de formation supérieure, ni d'emploi. Ils ont un baccalauréat. Vous savez, l'orientation, ça se fait avec le Parcoursup.
Parcoursup, oui.
Parcoursup, c'est un raté à ce niveau-là. Et les élèves, on le récupère, on leur fait une formation qui s'appelle FCL. Ça veut dire formation complémentaire d'initiative locale. On va les mettre dans une voie de garage. Tu as appelé tout à l'heure voie de garage, justement. Ça va être une voie de garage. En attendant, peut-être l'année prochaine, soit ils trouvent un travail, soit ils réintègrent une formation supérieure. Voilà des élèves à qui on a dit. Vous avez l'image qu'on envoie aux jeunes de certains quartiers populaires. Les élèves ont un BTS. Ils n'ont plus de formation supérieure ni de travail. Et c'est une catastrophe. Comment on peut valoriser l'enseignement professionnel en faisant ça à des élèves qui ont un bac et qui ne peuvent pas trouver ni de formation supérieure, ni d'apprentissage, ni de... Voilà des élèves que peuvent, par exemple, prendre les patrons et former. Moi, je suis pour un apprentissage, mais à partir d'un bac plus 2.
Bac BTS. Plus BTS.
BTS, par exemple.
Mais est-ce que c'est le problème?
Surtout au niveau des lycées pro, il y a eu aussi un vrai problème de manque de moyens dans ces lycées-là. Et qui a induit aussi une mauvaise presse de ces lycées-là, notamment au niveau des collèges. Moi, j'étais au collège il n'y a pas si longtemps, et je me rappelle très bien d'entendre les conseillers d'orientation, les conseillères d'orientation, les professeurs, dire que, en gros, décrire le bac pro, la filière professionnelle, comme un peu la voix du pauvre à hésiter à tout prix. Et du coup, de ce côté-là, on a vraiment un vrai problème. Il y a aussi un vrai problème au niveau des poursuites d'études. C'est-à-dire qu'après un bac pro, certaines personnes veulent poursuivre leurs études, en faisant un BUT notamment, et il y a peu de place en BUT. C'est des filières qui parfois sont très sélectives et qui, avec Parcoursup, ont aussi tendance à injustement défavoriser les personnes qui viennent de bac pro. Il y a vraiment un vrai problème de reconnaissance du bac pro, au-delà même du financement, ne serait-ce que d'image qu'a le bac pro dans la société.
C'est ça. Juste avant de passer à l'intermède musical, juste une petite question, mais il va falloir répondre rapidement. Avec moins d'heures d'enseignement généraux, puisque avec les stages, ça va être difficile, pour obtenir un diplôme, ça va être sans doute bouleversé. Hein. Quelles seront les disciplines abandonnées ou écourtées? Et les lycées seront-ils libres pour choisir les disciplines à étudier? Et comment ça va être évalué? Donc, très rapidement.
Rapidement, mais juste revenir justement pour l'augmentation des stages. Ça, c'est une aberration. Déjà, avec les stages, parce qu'actuellement, en bac pro, pour avoir un bac pro, il faut 22 semaines de stage.
Donc là, 50% en plus.
On va passer 33. À 33. Donc nous, nos élèves, ils ont beaucoup de difficultés pour trouver des entreprises
stages.
D'accueil. Et les entreprises, justement...
Donc on va passer à l'intermède musical.
Les entreprises ne veulent plus prendre de stage.
Exactement.
Bon, on reviendra après l'intermède musical.
Bien sûr.
On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie. Sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Et grâce à vous, ma flamme s'est allumée. Croiser ce héros, malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire. Et l'espoir fleurit à tous ces héros, malgré eux. Je voulais leur dire merci. On ne se connaît pas, mais vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups. Et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous. Peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros, malgré lui, qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire. Et l'espoir fleurit à tous ces héros, malgré eux.
Notre thème du jour, les lycées professionnels. Pour cela, nous recevons M. Mohamed Assamti, professeur génie électrique au lycée professionnel Marie Curie de Nogent-sur-Oise et au téléphone du mouvement national des lycéens, Eban Arami.
Donc on continue. Depuis 2018, donc on a vu qu'il y a eu la mise en place dont on vient parler de toutes ces innovations pédagogiques. Quel bilan en tirer ? Est-ce que c'est efficace ou pas ? Non. Qui veut parler ?
C'est Eban s'il veut parler un peu.
Ouais. Eban, tu veux parler ? Tu veux dire
oui.
Vas-y.
Alors, sur les différentes mesures qui ont été mises en 2018, c'est surtout depuis 2018 en fait. Donc, ici, il y a eu une première réforme qui avait mis en place, on en avait parlé plus tôt, le chef-d'œuvre, les co-interventions, etc. Force est de constater que ça n'a pas amélioré la situation en pro et ça l'a plutôt dégradée, à vrai dire. Les différentes mesures qui avaient voulu être mises en place et qui avaient été annoncées en grande pompe ont tous plus ou moins été un échec, que ce soit le chef-d'œuvre, que ce soit la co-intervention qui s'avère que c'est relativement souvent un peu en dehors, un peu à côté de la plaque de ce qui est attendu, les fameux nouveaux programmes d'enseignement généraux avec usage numérique renforcé, etc., il s'avère que ça n'a jamais été vraiment mis en place, un accompagnement renforcé pour la poursuite d'études. Pareil, en fait, il n'y a rien de très spécial, il n'y a eu aucune place vraiment ouverte dans les BTS pour avoir une meilleure poursuite d'études. Voilà, en fait, encore une fois, comme on a très souvent dans les réformes, je dirais de droite, dans ces réformes-là, très souvent, on a des grands mots pour nous promettre que ce sera sera le futur, l'avenir, la modernisation, etc. Au final, c'est toujours une case des services publics et une fois de plus, sans surprise, bah, ça s'est observé.
Tu veux rajouter quelque chose, Mohamed ? Je pense que tu es tout à fait d'accord avec Eban.
Exactement, je suis tout à fait d'accord à ce que tu viens de dire, Eban. Donc là, moi, je rajoute deux choses. C'est qu'on a perdu 10 heures d'enseignement professionnel et 10 heures d'enseignement généraux en général. Et aussi, on a, comment dire, au niveau de la... de la case des services publics de l'éducation nationale, en pensant qu'un jour ou l'autre, on va transformer l'éducation nationale en marchandise. Et ce n'est pas possible, parce que nous, on reçoit des élèves qui sont en difficulté scolaire, en difficulté sociale, en difficulté, en difficulté scolaire, qui ont des lacunes qui datent depuis le collège. Depuis le primaire. Et ceux-là, le privé n'en veulent pas. Et comment faire ? Donc là, et c'est pour ça que, Iban, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut un grand service de formation professionnelle. Dedans, on mettra tous les jeunes qui veulent se former à un métier. Parce que bon, quand je regarde que dans l'éducation nationale, on a d'autres services au niveau éducation nationale, on a le GRETA, c'est un bon service public. Les entreprises peuvent s'adresser à ce service pour former leurs salariés, soit en formation continue, soit en formation d'apprentissage. On a un autre service en direction des adultes qui s'appelle l'AFPA aussi, c'est un service public pour les adultes. Malheureusement, l'AFPA, il faut savoir qu'on a fermé beaucoup de centres d'AFPA en France et on ne reste pas grand-chose.
C'est le parent pauvre.
Voilà, le parent pauvre. Et il faut savoir aussi que, bon, on peut dire que ce gouvernement a augmenté de 6% le budget de l'éducation nationale. On est passé à 59 millions d'euros. Et d'autre côté, vous avez la taxe d'apprentissage qui tourne autour de 32 milliards d'euros. C'est 59 milliards d'euros, pardon, d'éducation nationale. Et la taxe d'apprentissage qu'on peut utiliser pour les formations d'adultes, 32 milliards d'euros. Et nous, on récupère que des miettes par rapport à ces sommes-là.
Alors, tout à l'heure, on parlait très rapidement, effectivement, pour la fermeture de lycées professionnels parisiens, sachant que les effectifs ont donc augmenté dans certaines filières. Et fin septembre, on comptait encore 122 jeunes sans affectation. C'est vrai que ça a été la stupéfaction à tous les niveaux. Hein. Et donc, quand on apprend que la fermeture ou le transfert de 6 lycées professionnels et d'un lycée général en double cursus sur Paris... Ce sont des lycées de quartier où les jeunes choisissent vraiment, comme on disait tout à l'heure, cette filière et leurs études courtes. Est-ce qu'on va vers une sélection plus stricte afin de désengorger certaines filières ? Ou alors est-ce qu'on veut envoyer vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, les jeunes vers plus de privés ?
En fait, on est dans les prestiges. Personne ne veut, par exemple, avoir installé dans son village... une prison. Mais pour les lycées d'enseignement professionnel, moi qui ai travaillé plusieurs années à Paris, les élus parisiens ne veulent pas de l'enseignement professionnel dans la ville de Paris. Ils veulent des formations de prestige. Ils veulent écarter tous les quartiers populaires vers l'extérieur. On le voit tout de suite. La majorité des gens qui n'arrivent pas à se loger sur Paris, ils logent dans les quartiers populaires qui sont à l'extérieur de Paris. Et mais on veut faire la même chose pour les lycées. On veut les transférer à l'extérieur. Moi, je me rappelle une anecdote. Il y avait un centre commercial à côté de mon lycée. Et c'est la vérité. Le CPE à la pause, il allait faire gardien de supermarché. À la pause, il ne veut pas que les élèves rentrent du supermarché. Vous voyez les préjugés. Ça veut dire que tous les élèves du lycée professionnel sont des voleurs.
D'accord.
Donc après, c'est interdit qu'un élève qui sort à la pause d'aller voir rentrer dans un supermarché. C'est quand même incroyable. Donc c'est pour ça qu'on veut transférer les élèves d'enseignement professionnel de Paris. Donc c'est une honte.
Alors, on va continuer. Alors, le MEDEF désirait des stages supplémentaires pour orienter principalement le savoir-faire du métier. On remarque que certaines entreprises, ne trouvant pas de main-d'œuvre, affichent « Ici, on recrute sans diplôme, nous vous formons ». Face à une pénurie dans certains métiers, est-ce que les formations actuelles ne sont pas ou plus adaptées aux attentes des entreprises?
Oui.
Vas-y,
Eban.
C'est pas tant que les formations ne sont plus adaptées aux besoins des entreprises, c'est qu'elles sont plus adaptées tout court aux besoins de la société. C'est-à-dire que la formation professionnelle, la formation générale, c'est certes une formation qui est professionnelle, mais elle ne devrait pas être tournée vers satisfaire à tout prix et en ayant pour première priorité de satisfaire les besoins des entreprises. Elle devrait avoir pour objectif de satisfaire les besoins de la société, et c'est nettement différent. Et les besoins des entreprises, c'est d'avoir des travailleurs qui travaillent pour pas très cher et qui le font sans trop ronchonner. Ça, je pense pas que ce soit vraiment le rôle des lycées pro, à vrai dire. Et oui, il y a une vraie problématique au niveau de la formation sur la qualité de ces formations-là, qui est en fait détruite de plus en plus tous les jours. Et à notre avis, c'est pas en enlevant des heures de cours en classe et en emmenant les élèves de lycées professionnels plus dans les entreprises que ça va s'améliorer, parce qu'on observe que bien souvent, quand les élèves sont en stage dans des entreprises, les élèves de lycée pro sont en stage dans des entreprises, en fait, bien souvent, l'enseignement est de bien moindre qualité que s'ils étaient en cours. Parce que souvent, soit ces personnes-là sont juste à regarder ce que font les adultes, et ils ne sont pas réellement formés, ils sont juste à observer, et du coup, c'est très répétitif, et finalement, ils n'apprennent pas grand-chose. Soit ils sont mis à travailler, à contribuer, mais c'est souvent sur des tâches un peu futiles ou très répétitives et très simples. Donc en fait, il y a un vrai problème de formation, et c'est pas en emmenant toujours plus les lycéens dans les entreprises qu'ils vont vraiment être formés et avoir des vraies compétences professionnelles, parce que bien souvent, ces entreprises les traitent plus comme de la main-d'œuvre gratuite que comme vraiment des lycéens à former, quoi.
Alors c'est vrai que souvent on entend les jeunes qui ne sont pas satisfaits de leur stage, trop de tâches parfois sans intérêt, malgré la signature d'un contrat avec le lycée qui détermine les attentes et les obligations du tuteur, sans compter la difficulté de trouver un employeur pour le stage. Tu peux nous dire quelque chose, toi, est-ce que tu as des retours aussi des jeunes sur leur apprentissage?
En fait, Iban, tu as tout à fait raison. L'objectif du lycée professionnel, ce n'est pas de former des élèves qui sont employables tout de suite sur une zone donnée pour les entreprises. Mais par contre, moi, je le vis tout le temps. On a du mal à trouver des stages pour nos élèves. Certains élèves, quand ils ne trouvent pas de stage, ils acceptent n'importe quel stage. Des fois, qui n'a rien à voir avec la formation électrotechnique. Un exemple, moi, malheureusement, c'est la réalité. Il y a beaucoup de jeunes qui sont acceptés dans les services publics, par exemple dans les communes, dans les lycées, dans les collèges, mais ils font des tâches qui n'ont rien à voir avec la formation professionnelle. Ensuite, certains, quand ils font ce type de stage qui n'ont rien à voir avec la formation, ils reviennent démotivés. Mm-hmm. Donc c'est pour ça qu'on a un nombre très important de décrochages scolaires. Parce que quand quelqu'un qui est démotivé pour sa formation, il ne va pas jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on dit en général. Mais en général, la majorité des élèves qui décrocheurs, ils viennent du lycée professionnel. C'est vrai ça, mais au départ, ceux qu'on a recrutés sont déjà en difficulté scolaire. Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est que quand ils font de l'apprentissage, moi qui interviens justement dans un CFA pour faire passer des élèves en contrôle continu, certains élèves en CFA, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau ni en matière générale, ni en matière professionnelle. Donc, du coup, quand ils font un apprentissage, derrière, ils ne sont pas employés. Mmh. Allez. Donc, on tourne en rond. Et c'est pour ça que je reviens toujours à un bon service public d'éducation professionnelle, de formation professionnelle, avec des élèves qui sont formés correctement au lycée. La formation professionnelle, c'est un devoir de l'État. Ce n'est pas un devoir des entreprises. Les entreprises, ce qu'ils veulent faire avoir, c'est des ouvriers qui travaillent dans une tâche. Mais quand ils ne sont pas capables de travailler, ils les mettent de côté. Moi, il y a beaucoup d'élèves qui reviennent. Monsieur Assanti, j'ai été tout le temps assis, on ne me donne rien à faire. Sinon, ils refusent aussi de faire travailler les mineurs. Oui. Nous, on a, par exemple, des élèves qui ont 15-16 ans. Voilà. Ils refusent de les faire travailler ou de les prendre en stage.
Ce qui avait aussi la problématique qu'il y a maintenant. Moi, de mon temps, j'ai fait de l'apprentissage, mais on avait un tuteur dans les entreprises. Maintenant, le tuteur dans les entreprises n'existe plus.
Il n'existe pas du tout.
C'est ça. Il y avait une personne dédiée à l'apprentissage.
Mais en fait, à un moment donné, ils ont sorti donc, de l'éducation nationale à ce qu'ils appellent un carnet de tuteurs. Pour, mais les entreprises ne peuvent pas avoir déjà un stagiaire le payer, voire le payer, et il peut s'en occuper, avoir un tuteur à payer pour s'occuper du stagiaire. Mais sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est que le gamin est ballotté ou envoyé d'une personne à l'autre. Donc il n'y a pas de suivi.
Ça, c'est sûr. Jackie, tu avais un petit billet d'humour?
D'humeur.
D'humeur, pardon, oui.
Oui, d'humeur qui... Bah c'est oui, par rapport à ce lycée professionnel, est-ce que le fonctionnement du lycée professionnel après les différentes réformes et une qui est en train de se mettre en place, enfin, qui est en discussion, comment va évoluer ce lycée professionnel? Ça, c'est un peu dans le doute. Mais on voit quand même que ce lycée professionnel, ça sera toujours la majorité du temps une filière par défaut. Et par défaut et en plus inégalitaire, je trouve, qui est de plus en plus, parce que c'est quand même... les gens qui ont eu de gros problèmes de toutes sortes de compréhension, enfin de toutes sortes liées à l'éducation, qui se retrouvent dans les lycées professionnels. Et donc, à nos politiques de donner un vrai statut et une envie pour ce lycée professionnel, et surtout une reconnaissance au sein de l'éducation nationale, et d'avoir tous les moyens possibles, ce qui n'y en sont pas aussi en ce moment.
Alors, tout à l'heure, je t'ai coupé, Jackie, et je m'en excuse. Tu voulais parler, effectivement, des centres de formation dans certaines grosses entreprises. Tu peux nous en dire un peu plus?
Moi, j'ai été moi-même... Bon, ça fait quelques années maintenant.
Toi aussi?
Ça fait quelques années parce que maintenant, je suis à la retraite. Mais ça fait quelques années. D'ailleurs, après, j'ai plus suivi. Cette formation que j'ai eue, je l'ai plus suivie après. Mais bon. Mais c'est pour ça que ça montre aussi, justement, le problème de l'orientation. Mais les organismes privés, ça fait longtemps qu'ils sont mis en place. Moi, j'ai fait de l'apprentissage avec un organisme privé qui est très connu maintenant.
Donne le nom.
Proméo. Maintenant, qui a pris une place immense au sein de la société, au niveau de privé, au niveau de l'apprentissage. Et c'est un apprentissage, une semaine à l'école, une semaine en entreprise. Et c'est vrai qu'on avait... après, ça dépendait aussi... L'apprentissage pouvait être bien, mais ça pouvait dépendre aussi, malheureusement, aussi des entreprises. Ça, il faut qu'il y ait vraiment un contrat vraiment cohérent et lié entre l'organisme et puis l'entreprise. Et ça, mais il y avait aussi, ce qu'on manque aussi maintenant de plus en plus, c'est le tutorat. Mais moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des gens en stage avec moi. Comme on n'avait plus de tuteur, on me le prenait, on me le donnait comme ça pour une heure ou pour un machin. Donc nous, en plus, les gens dans les entreprises, on ne peut pas avoir notre travail et avoir une personne à côté de soi pour des formations. Et c'est vrai ce que tu disais, Mohamed. C'est souvent, malheureusement, c'est des gens qui viennent par des formations par défaut. Leur formation, ils ne viennent pas avec leur formation. Ils viennent pour un stage quelconque, en fin de compte. Et c'est ça le problème.
Tu voulais parler des formations... ce que tu as lu là, voilà, vas-y.
Oui, j'ai vu un article d'il y a peu de temps d'ailleurs, et ce qui fait, moi, ce qui je trouve qui peut être bénéfique pour les grandes entreprises, mais ce qui risque de plus en plus d'arriver, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui créent leur centre de formation propre à eux. Donc il y a un article qui est paru dans un journal et qui montre que déjà toutes les entreprises de luxe ont déjà créé leur centre de formation et qui piochent dedans directement les apprentis. Ils sont intégrés dans cette entreprise-là. Donc, est-ce qu'il va y avoir pas... Moi, ce qui me fait peur un peu, enfin, ce qui est inquiétant pour le service public professionnel, est-ce qu'il va pas y avoir de plus en plus des entreprises qui vont créer leur centre de formation propre?
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Eban, quand tu écoutes ce que vient de dire Jackie?
Sur ces centres de formation-là créés par les entreprises... Alors, je prendrai un exemple que, à titre personnel, j'en ai un peu entendu parler, c'est Orange qui fait ça aussi. En fait, il y a un vrai problème dans ces centres de formation-là. Mais ça, je pense que c'est un peu évident, à vrai dire. C'est que ces centres de formation-là sont créés par des entreprises, pour des entreprises et pour servir leurs propres objectifs. Et en fait, en quelque sorte, ils substituent un peu à l'éducation nationale. Et c'est des intérêts privés, donc, qui vont venir se substituer aux intérêts... de la société et des jeunes lycéens et lycéennes font en formation professionnelle. Et du coup, il y a un vrai problème d'influence des entreprises et même du gouvernement. Hein. On a vu beaucoup de membres du gouvernement qui ont fait du pantouflage dans des sociétés de formation, etc. Et c'est un vrai problème en fait de mainmise des intérêts privés, des capitaux privés de ces entreprises-là sur la formation professionnelle des lycéens et des lycéennes. Et en fait, qui ne servent que leurs intérêts, parce qu'un lycéen, une lycéenne n'a pas du tout les mêmes intérêts qu'une entreprise. Enfin, du coup, ça pose vraiment un vrai problème de mainmise de ces entreprises-là sur nos formations.
Alors, c'est vrai, moi je pense à la société Galileo Education. C'est enseignement supérieur privé, hein, c'est le leader européen qui a recruté 3 experts du secteur privé. D'ailleurs, ils sont en bourse, hein, c'est ce Galileo. Alors, il y a eu Martin Hirsch, hein, qui était haut fonctionnaire, donc on connaît un peu. Il y a Guillaume Pépi, qui était haut fonctionnaire et président de la Société nationale des chemins de fer. Il y a Muriel Pénicaud, qui a été directrice chez Dassault Systèmes, qui a été ministre du Travail jusqu'en juillet 2020. Et donc, quand on entend le PDG de Galileo Éducation, Marc-François Mignot-Mahon, en mars 2020, il a dit « L'éducation a besoin du temps long. L'éducation mérite les investisseurs institutionnels les plus prestigieux. » Donc, ça m'a déjà un petit peu choqué. Et puis, il a dit « Un jour, un jeune, une solution. Le développement de l'apprentissage ou encore le contrat professionnel de formation. Mais il faut maintenant que les hommes politiques s'emparent d'un projet politique. Création et acquisition de nouveaux établissements qui vont donc former des étudiants au métier des filières en tension. » Il cite le secteur de la santé, par exemple. Et il rajoute « Nous allons là où il y a de la demande et où les entreprises ont du mal à recruter. » Donc là, je pense que tout est dit, voilà. Donc on va vraiment vers tout ce qui est privatisation de l'enseignement professionnel. Je te vois hocher la tête, Mohamed. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ?
Justement, donc, ce que je disais, donc, ils veulent transformer l'éducation et la formation en marchandise. Moi, qui ai été plusieurs fois au conseil d'administration actuellement, comme je suis en fin de carrière, j'ai arrêté. Je me suis intéressé au budget, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent et le budget de notre établissement. Il faut savoir que le budget d'un établissement scolaire est constitué de, surtout en enseignement professionnel, constitué de la TA, taxe d'apprentissage, ensuite la DGF de la région, dotation générale de fonctionnement de la région, et puis quelques subventions de l'État, parce que l'État ne donne pas beaucoup d'argent, quelques subventions de l'État sur projet. Ramener, parce que nous, au lycée Marie Curie, on a à peu près 300 élèves de lycée professionnel sur 2000 élèves. En gros, notre budget est tourné aux 300 000 euros. En gros, 1 000 euros par élève et par an. Quand j'ai regardé, j'ai fait la distinction entre la partie pédagogique qui revient à l'élève et la partie fonctionnement. Je me suis rendu compte que à peu près, on prend 700 euros pour le fonctionnement sur les 1 000 euros qui venaient à un élève de l'enseignement professionnel. Il ne restait que 300 euros, ça veut dire 30%. Et 300 euros qui arrivent jusqu'au prof qui est le nerf de la guerre dans l'enseignement professionnel. Donc on est passé de 1 000 euros, il y a à peu près 70% qui passent dans le fonctionnement et 30% qui arrivent au niveau de l'élève. Et on dit aussi, le MEDEF, quand il parle, on les entend parler, il dit l'enseignement professionnel coûte trop cher à l'État. Et ils parlent, ils disent comme ça, l'enseignement professionnel public coûte trop cher à l'État. C'est pour ça qu'ils veulent transformer toute la partie qui rapporte de l'argent, transformer ça en marchandise et la faire passer dans le privé.
C'est vrai que le privé, là, quand on voit Galileo qui est coté en bourse, on voit bien que ça rapporte quelque part.
Exactement. Il y a certaines formations d'élite, ça rapporte, exactement.
Tout à fait.
Sur Galileo, je voulais juste réagir vite fait. Du coup, c'est une entreprise qui est vraiment en fait très influente en France et je m'en doutais pas avant de faire quelques recherches sur le sujet.
Je m'excuse, Eban. Et en Europe, il faut savoir qu'ils vont ouvrir là. En avril 2022, ils ont ouvert 2 nouvelles écoles, une en Espagne et une au Mexique. Donc, c'est le leader européen et ils sont très influenceurs, quoi.
Nous, en France, on a le cours Florent, par exemple, qui est détenu par Galileo, ou l'école, la Paris School of Business. Enfin, il y a plein de grosses écoles, surtout parisiennes, qui sont détenues par ce gros groupe-là. Et pour info, quand même, le fait que Muriel Pénicaud, elle ait été nommée là, c'est peut-être pas un hasard. Parce que c'est assez intéressant de voir qu'elle avait été nommée suite à une loi en fait qui avait vachement enrichi les organismes de formation privée. Elle avait passé une loi qui avait modifié le système de financement de l'alternance, je vais la faire courte. Et en gros, plutôt que de payer au niveau régional, c'était un système de subvention qui était géré, qui allait directement dans l'établissement par un organisme qu'ils appelaient France Compétences. Et du coup, ça avait vachement augmenté et enrichi des organismes de formation privée. Et c'est assez intéressant de voir que, bizarrement, étonnamment, après cette loi-là, Muriel Pénicaud a été nommée à la tête de ce centre.
C'est vrai que tous ces lycées, toutes ces écoles hein, qui vont être privées, il va certainement y avoir des frais d'entrée conséquents, hein, qui va favoriser certainement l'élitisme et qui ne va pas permettre encore l'égalité des chances. Loin de là. Mohamed ?
Oui.
Eban, excuse-moi.
C'est le moins qu'on puisse dire. Le fait de cette privatisation-là, ça va aussi amener sûrement à des formations payantes et qui vont sûrement être très chères. C'est le cas, je prendrai l'exemple des États-Unis où les gens s'endettent sur des années, des dizaines d'années juste pour pouvoir suivre des formations. Et là encore, ça va être la même chose en France, c'est-à-dire qu'on va laisser se développer. Et en fait, c'est un peu le même schéma que dans beaucoup de services publics. On va laisser se développer le privé, on va les subventionner un maximum. Et pendant ce temps-là, on délaisse de plus en plus le service public. Et en fait, on fait en sorte que le service public, ça devienne, et là je mets des guillemets, les lycées des prolos, et que les organismes privés soient les vrais organismes prestigieux qui permettent vraiment d'accéder aux écoles, aux formations intéressantes. Quoi.
Tu voulais réagir, Mohamed ?
Oui, justement, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ce qui est grave, c'est que l'argent public, surtout qui vient de région, je compare par exemple moi le lycée d'enseignement professionnel dont je travaille, il y a un CFA qui n'est pas loin d'ici. Et ben, la région donne, parce que c'est la région qui gère et les locaux et le matériel, ils donnent énormément de subventions au CFA pour les encourager, parce que le CFA, centre de formation d'apprentis, c'est un service privé. Et par rapport au ELP. Donc, on est désavantagé, mais c'est fait exprès. Ça veut dire que ramener beaucoup d'argent public vers le privé et moins d'argent public au lycée d'enseignement professionnel pour avoir deux écoles à deux vitesses. Elle est où l'égalité ? Il n'y a pas d'égalité, donc il n'y a pas d'équité par rapport à deux jeunes qui sortent de peut-être un de quartier, un des beaux quartiers et un qui va choisir l'enseignement qui est offert par le privé et qui va avoir accès à la technologie, à des locaux corrects. Nous, par exemple, le lycée Marie Curie, il y a un prof la dernière fois, il est venu me voir, il me dit, Mohamed, tu sais que moi j'étais pas élève ici, il me dit, j'étais élève ici, je suis professeur. Il dit, tu vois les peintures que tu as sur le mur, elles existent depuis que je suis élève. Et le prof, il a 50 ans, il est arrivé à 15 ans.
J'avais une question parce que ça va se terminer. Est-ce que le syndicat des professeurs ont essayé, puisque ça vient de la région, d'aller voir le président de la région qui est Xavier Bertrand, justement pour essayer de lui dire attention, on se dirige peut-être vers le privé. Est-ce que vous avez essayé déjà d'avoir un contact avec la région ou pas du tout ?
En fait, au niveau syndical, c'est vrai, il y a des syndicats et syndicats, mais vous savez, donc, comme il dit Iban, donc c'est on est dans l'idéologie. Ça veut dire qu'une idéologie libérale, jamais il va donner de l'importance à un syndicat qui défend, par exemple, l'ouverture des métiers d'avenir comme, nous, on a des métiers, on propose des métiers d'avenir. Un exemple, fabrication de voitures, maintenance de voitures électriques, les métiers de rénovation thermique, les métiers de chaudronnerie, ça marche très bien. Les métiers de transport, ça marche très bien. Mais eux, quand ils voient qu'il y a une niche qui marche très bien, mais au lieu de la donner ou de la proposer au public, il la propose au privé. Une fois, mon proviseur il me dit, Monsieur Samti, vous savez, dans l'éducation nationale, on sait bien fermer les sections, mais on ne sait jamais ouvrir de nouvelles sections, même si vous voyez qu'il y a de la demande. Une fois une section fermée, c'est très difficile d'en ouvrir d'autres, parce que la région, elle bloque. Elle dit, il vaut mieux l'ouvrir en apprentissage et dans un CFA.
Et pourtant, la région, elle est en charge de tout ce qui est lycée.
Oui.
Exactement, mais c'est de l'argent public.
Oui, c'est de l'argent public, bien sûr. Oui. Alors, c'est vrai que revaloriser la voie professionnelle, tel est le but du ministre de l'Éducation, donc Pape Niad. Les lycées professionnels peuvent être des lieux de grande réussite. Bon, on va voir ce qu'il va faire pour ça. Moi, j'ai juste une petite chose avant de quitter. C'est ce qui m'énerve. C'est qu'on revient sur d'anciens débats. Ah, bah oui, comme le port de l'uniforme. Alors là, on a un petit jeune au bout du fil. J'aimerais demander un petit peu ce que tu en penses, toi, Eban. Puisque c'est vous qui êtes ciblé hein, en première ligne. Alors l'uniforme
Bon, je pense que tout le monde s'attend à la réponse que je vais donner de toute façon. Évidemment, nous à MNL, on est opposé à cette obligation de porter l'uniforme pour plusieurs raisons, mais ne serait-ce que pour permettre à tout le monde de s'exprimer librement, quoi, à travers le choix de ses vêtements. Ça paraît assez fou aujourd'hui en 2022 qu'on en soit rendu et réduit à devoir imposer un style vestimentaire aux lycéens et lycéennes. Il y a un vrai besoin de contrôle de la jeunesse qui est exprimé à travers ça, je pense. Et c'est le cas pour l'uniforme. C'est aussi le cas sur d'autres sujets plus polémiques comme le port du voile dans les écoles. Enfin, en fait, il y a toujours un besoin de contrôle permanent et complètement exacerbé de la part de l'éducation nationale, etc. Qui veulent placer leur point de contrôle sur leurs élèves un peu partout. Et c'est une de ces incarnations, c'est cette idée de l'uniforme qui paraît vraiment d'un autre siècle.
Quoi. Oui, c'est le formatage, quoi, c'est ça?
Oui, c'est ça, en quelque sorte. Oui, c'est une idée de formatage, de un peu de robot, quoi. Mais comme c'est partout, en fait, on n'individualise absolument pas la vision qu'on a d'éducation nationale. Et ça, c'est le cas en pro, et je pense que Mohamed dira la même chose que moi, c'est le cas en pro, mais aussi en général, en technologique, en fait, dans toutes les voies, on n'individualise pas parce qu'on n'embauche pas assez de profs, donc on fait un truc hyper général, on cherche absolument pas à se concentrer sur l'individu en lui-même, comme ça peut être le cas dans des pays nordiques, par exemple, où ils ont une approche beaucoup plus centrée sur les personnes et leurs besoins. En fait, on va juste donner des cours, un maximum de personnes à la chaîne, un peu, en quelque sorte, et du coup, on retrouve vraiment la logique néolibéraliste de faire des petits travailleurs à la chaîne. Et je pense que c'est vraiment l'idée qui est derrière cette idée-là. Quoi.
Merci, Eban. On va demander pour la dernière minute à Mohamed de réagir sur les uniformes.
Oui, moi je suis comme Eban, donc il ne faut pas contrôler les jeunes. Moi je travaille bien avec les jeunes, donc ça n'a pas d'importance l'uniforme. Et pourtant moi, quand je travaille avec un ancien professionnel, j'ai besoin de ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle, les EPI. Et dedans il y a l'uniforme, mais ça reste dans l'atelier. Mais par contre à l'extérieur, je suis contre. Mais par contre, avant de finir, j'ai deux choses pour valoriser le métier. L'enseignant professionnel. La première chose, il l'a dit, Ivan. Donc, on arrête de recruter des enseignants précaires parce que précariser les enseignants, il y a beaucoup de contractuels, de précaires dans l'éducation nationale, alors qu'on peut former, avoir un centre de formation digne de son nom pour la République française. On est quand même la sixième, voire la septième puissance du monde. Deuxièmement, payer correctement les enseignants. Est-ce que vous savez que le salaire d'enseignant, on est l'avant-dernier en Europe avant le Portugal? Et on a perdu, en espace de presque 20 ans, 21% de pouvoir d'achat. Donc, on est les moins payés d'Europe. Ensuite, abandonner cette notion d'évaluation par compétence de nos élèves. Essayons d'avoir un diplôme national de bac, peu importe le bac, général, technologique et professionnel. Voilà donc des pistes de réflexion pour améliorer la formation professionnelle, quoi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je te vois faire des signes. On arrête tout de suite. Et à la prochaine fois. Merci beaucoup.
Notre émission se termine. Je remercie chaleureusement Mohamed et Eban d'avoir participé à cette émission.
Merci beaucoup.
Cette émission sera diffusée pendant le mois de décembre, le vendredi 9 à 19h, le lundi 12 à 16h30, le samedi 24 à 17h et le mercredi 28 à 2h du matin. Le thème du prochain, il manque un petit mot, mais c'est pas grave.
Le thème du mois
prochain sera la précarité et le bien-être des étudiants.
Le mal-être. Je me suis trompée.
Mais non, il y a le bien-être et le mal-être des étudiants. Donc, Au revoir à tout le monde. Merci à Luc à la technique. Chers auditeurs, si l'éducation des enfants et l'avenir des jeunes vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre et venez donner votre opinion à l'antenne. Contactez-nous par courriel sur le site de RVM à www.radio-6-valois-6-mulsien.fr. On vous dit tous ici à l'année prochaine et passez de bonnes fêtes. Au revoir.
Merci.
Ils sont marrants cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué. Lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Les mois en bon prof. Je suis préparé.